Bienvenue au monde de la course. Pour cette semaine, plusieurs nouvelles assez excitantes, dont un record du monde aux 1500 mètres. Donc, c'était, je pense, ça a fait. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, ben, vous allez en entendre à ce podcast. Mais tout d'abord, allons-y dans le bon ordre. J'aimerais tout d'abord remercier un nouveau supporter Patreon. Donc, merci à Gabriel Robillard pour le don mensuel de 3 $ et 1 sou. Si vous aussi, vous voulez supporter le podcast, vous pouvez aller sur la page Patreon du monde de la course. Si vous donnez 3 $ et 1 sou et plus, vous aurez un shout-out par mois, des remerciements une fois par épisode par mois. Et si vous êtes un Patreon or, vous en aurez même deux par mois. Donc ça, c'est tous ceux qui donnent 5 $ et plus. Je pensais que je l'avais fait pendant l'épisode avec Maxime Lopez, mais finalement, je réécoutais le début pour vérifier si j'avais bien dit. Puis finalement, je ne l'entendais pas. Donc, je vous donne votre deuxième remerciement, soit de ce mois-ci ou de l'autre avant, mais peu importe. Mais je sais que j'ai déjà fait un double. Merci Tristan Garcia et Mathieu Pollard. C'est cela qui conclut les remerciements Patreon. Eh bien, tout d'abord, j'ai fait. Là, ça fait presque. Ça fait un peu plus qu'une semaine. C'était dimanche de la semaine passée. Dimanche, le. On était le 9 août. J'ai fait un petit time trial de 5 km. C'était organisé par du monde, des anciens coéquipiers de McGill. Il y en était une belle petite gang et ça m'a fait redécouvrir le plaisir vraiment de racer. J'avais eu un peu cette expérience-là avec le championnat canadien virtuel de 10 km où ça avait été live streamé sur la page du monde de la course et je me mesurais virtuellement aux autres top coureurs canadiens. Mais c'était pas la même chose parce que, disons, ma blonde, j'avais pas donné un mandat de me pacer pour un temps précis. C'était pas des conditions idéales non plus. Donc, l'objectif était pas nécessairement un temps précis, mais juste d'essayer de faire le mieux que je pouvais dans les conditions. On pouvait seulement le faire cette journée-là. Tandis que cette fois-ci, il y avait d'autres personnes. J'avais Kurt Ebeling avec moi qui lui visait l'eau 15, 15 et quelques, 15 minutes et quelques secondes. Et on avait un pacer à vélo, Adam Schwent, qui était aussi l'organisateur de cet événement informel au parc Maisonneuve, c'est ça, il lui nous paçait à vélo pour faire du bas 15, donc 3, du 3 flat. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça m'a vraiment plus rappelé c'est quoi une course. J'avais un peu le stress avant aussi de là, ok, là il y a du monde physiquement à côté de toi. C'est toute une expérience. Moi, ça me manquait vraiment. Puis je l'ai vu après, juste le petit après, une fois que tout le monde qui avait fait leur performance, là, après ça, on se jasait. Pendant le cool-down, on discute. Ah ouais, comment ça s'est passé, toi? Puis après ça, on a pris une petite bière dans le parc Maisonneuve avec un peu de bouffe pour récupérer. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Je vais vous montrer ça pour ceux qui regardent sur Strava. J'étais content, j'ai fait 14,50. J'ai arrêté à 14,53 à 5,06. Donc on a fait un peu plus juste pour être sûr. Mais ça donne environ 14,50 pour 5 km. Je me suis surpris parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'événements, de courses en fait. Puis j'avais un peu cette peur-là d'être rouillé, si on veut. Je pense que je suis pas le seul. Quand ça fait longtemps que tu as racé, souvent la première course qu'on fait au printemps, on appelle ça un peu un Rust Buster, une course où est-ce qu'on se débarrasse un peu de la rouille, puis on regarde ce qu'on peut donner. J'ai vraiment été agréablement surpris. Mais surtout, ça m'a redonné ce goût de courir. Je me suis inscrit au 10 km d'Encours Montréal qui va avoir lieu ce samedi, le 22 août. août, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Je vous recommande parce que j'ai fait le processus d'inscription. Je remercie d'ailleurs l'organisateur. Il m'avait donné une inscription gratuite vu que j'avais parlé de son événement. J'ai fait le processus et j'ai vu qu'ils ont appliqué deux des changements qui étaient les plus importants dont on avait discuté à l'épisode avec Alvaro, quand Alvaro avait fait cette course-là, la première édition qui était en juillet. Dans le fond, on avait rapporté que ça serait le fun de faire des petites vagues de personnes, de 5, 6, on peut avoir assez d'espace quand même pour faire le départ, garder un 2 mètres, puis faire ça. Et donc, maintenant, c'est des vagues pouvant aller jusqu'à 6 personnes. Et il se base maintenant sur votre temps, votre seed time, le temps visé pour vous classer, donc pour que vous partiez avec du monde qui vont au même rythme que vous. Selon moi, ça va vraiment aller chercher très près de l'expérience de course pré-COVID. C'est sûr qu'il n'y a pas le gros départ de masse qui est quand même très le fun quand tu as du monde tout autour de toi puis que tu sens l'énergie, il y a une grosse musique de pump-up qui te fait un peu te préparer, très sauter, avoir vraiment hâte que ça parte. Mais je pense que ça va être quand même une atmosphère similaire et surtout la course elle-même, au final, ça va donner à peu près le même résultat. Vous aurez des gens, vous devriez avoir des gens avec qui courir à moins que tout le monde mente sur le temps d'inscription. Mais justement, je pense pas qu'il y ait vraiment d'avantage à mentir sur le temps d'inscription, de dire qu'on est plus rapide, parce que vous allez juste, si les gens font ça, ben, ils vont juste se retrouver avec des gens trop rapides pour eux. Après 5 ou 10 minutes, là, ils se feront larguer par le reste du pack. Ça devrait vraiment être une belle expérience. Je pense qu'il y aura plus d'inscrits cette fois-ci parce que la première fois, c'était un peu un test. Les gens n'étaient pas trop sûrs de quoi ça aurait l'air. Puis maintenant, avec ces changements-là, je pense vraiment que ça a attiré plus de gens. Mais je sais, je suis pas sûr s'ils sont pleins, s'ils vont atteindre le nombre qu'ils visent pour être rentable. Je vois qu'ils font quand même beaucoup de publicité pour essayer de promouvoir ça. Moi, je veux qu'on ait des événements de course comme ça, qu'on ait peu importe qu'est-ce que c'est, mais qu'on puisse avoir des événements de course. Au Québec, j'aimerais vraiment ça. Donc, si vous encouragez cet événement-là ou d'autres événements, ça risque d'envoyer le message aux organisateurs de course que les gens. Non, ils ont pas nécessairement qu'ils n'ont pas peur de la COVID, mais qui font confiance aux organisateurs pour bien organiser ça, puis pour avoir une belle expérience de course. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faire des courses en automne, je vous recommande de vous inscrire soit à cette course-ci ou à d'autres courses. Il y en a plusieurs que j'avais noté. Il y a le 200 000 à l'heure d'Alvaro dont on a parlé, le 10 km de l'Université Laval que je sais qu'il devrait toujours avoir lieu, le demi de la Chine, le demi-marathon Marcel Jobin. J'ai vu aussi le marathon de Magog. On m'a dit que ça devrait bien avoir lieu. Puis c'est quand même des prix très raisonnables, quand même 70 $ si vous inscrivez avant le 18 août pour le marathon. Puis tous les autres événements, c'est encore moins cher. Puis si c'est après le 18 août, si c'est avant le 18 septembre, c'est 80. Donc, quand même très raisonnable. Inscrivez-vous. Moi, je vais être là pour me tester, avoir un bon test sur 10 km. Et je mesurerai à Charles-Philbert Thibouteau qui devrait être là. Il avait annoncé à la presse qu'il va le faire comme entraînement et qu'il vise entre 30 et 31 minutes. Moi, ce ne sera pas vraiment un entraînement pour moi, ça va être plus une race si je fais ça. Ça va être le fun. C'est pas tout le temps qu'on a la chance d'affronter Charles-Philbert Thibouteau dans une course. Je la saisis lorsqu'elle se présente. Ça devrait vraiment être le fun. J'ai vraiment hâte d'avoir le plus près qu'on peut avoir d'une expérience de course en ce moment. Puis je pense que ça va être vraiment le fun si je me fie juste à l'expérience que j'ai eue à la course informelle, qui était plus un genre de time trial, qui a été fait au Parc Maisonneuve il y a une semaine. Aussi, je me souviens après, j'ai mon ami Simon qui m'a demandé comment tu gères un 5 km, parce que c'est vrai qu'un 5 km, j'ai la chance d'en avoir fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est une course qui est quand même un peu plus difficile selon moi à gérer qu'à mettons un 10 ou un 10 kilos ou un demi-marathon, parce que ça se finit très vite, puis il faut vraiment aller à une vitesse qui est pas confortable. Donc je vais donner un peu les conseils un peu que je lui ai donné, puis que je donnerais à un peu n'importe qui veut faire un 5 km. C'est sûr, ça varie en fonction de votre vitesse. Ça se peut que dépendamment du temps que ça vous prend pour faire un 5 km, si ça vous prend 25 minutes et plus, probablement que c'est pas exactement les mêmes conseils qu'il faut suivre que si vous visez de faire sub 15 ou sub 16 ou sub 17. Mais c'est quand même, je pense, c'est probablement un peu similaire. Je veux juste pas trop généraliser puis dire que ça devrait 100% être ça pour tous. Mais donc, comment moi je vois ça, un 5 km? Tout d'abord, je pense qu'au départ, tu dois partir un petit peu comme. Tu te sens comme dans. Mettons, si tu fais une accélération. Pour ceux qui ne savent pas, une accélération, c'est comme tu accélères pour aller quasiment. Pas une vitesse sprint, mais un peu en bas de ça. Selon les définitions de certaines personnes, c'est de la vitesse sprint. Moi, peut-être des fois, je me rends à ça, mais tu fais comme une accélération, mais que tu vas pas te rendre complètement sprint. Tu te rends juste à une vitesse qui est très rapide pour toi, mais que tu es quand même capable de maintenir. Tu souffles, mais tu es capable de maintenir. Donc, c'est comme ça que j'étais parti. Il faut vraiment briser le 5 km. Ça, c'est un conseil qui est bon pour n'importe quelle distance. Briser la course en plus petites étapes. Donc, le 5 km, moi, j'aime ça briser ça en kilomètres. Donc, 1 km à la fois. Donc, je suis parti. Là, je me dis, OK, je pars, je vais vite. Mais je suis capable de tenir ça en ce moment. Je suis pas en train de pogner des crampes pour rien. D'habitude, dans le premier kilo, c'est pas là qu'on aurait pogné une crampe. Si vous en pognez une, c'est que vous êtes parti vraiment trop vite. Vous avez mangé quelque chose de bizarre. C'est ça, on part vite. Après ça, je regarde. OK, j'étais à 2,59 à mon premier kilo. Donc, je suis content. C'est exactement ça que je vise. Là, je sais que c'est pas confortable, mais je sais déjà que j'ai un cinquième de fait. Donc, je me dis, OK, on va essayer de maintenir ça. Peut-être même pousser une petite affaire de plus, mais pas trop, juste maintenir une vitesse qui est déjà quand même difficile. Là, après ça, je pousse, je pousse, je pousse. Je pense 1 kilo à la fois. Je me dis, je vais voir ça va être quoi dans le prochain kilo. Là, je regarde, OK, là, je me souviens plus c'était quoi, mais c'était le cumulatif des deux. Donc, ça va être 5,56. Je pense que j'avais vu 57, 58 sur ma montre. Donc, je me dis, OK, c'est parfait. Là, j'en ai deux de fait. J'ai presque à la moitié de fait. Là, il faut faire 1 kilo de plus. On continue à pousser. Puis là, il faut vraiment se dire, c'est là que ça va devenir un peu souffrant. C'est pendant du deuxième au troisième que tout peut se décider un peu. Si t'es parti trop vite, c'est là que ça va vraiment casser. Si t'as bien jugé, ben là, il faut maintenir. J'ai ralenti un petit peu. J'ai fait 3,01 à mon troisième, du deuxième au troisième kilo. Mais c'est quand même pas si pire. Là, il faut juste, je me dis, j'ai fait plus que la moitié. J'ai le 3 cinquième de fait. J'ai toujours 1 km à la fois, mais je me dis, le kilomètre 3 à 4, je veux qu'il soit plus rapide. Donc, j'ai accéléré un peu, comme de fait, rendu au kilomètre 4, 2,56. Je suis on pace parfait. Puis là, le dernier kilo, quand il reste 1 km à faire, tu peux dire, j'ai le 4 cinquième de fait. C'est juste le temps de tout donner. Fait que là, je me souviens quand il restait 1 kilo, j'ai vraiment commencé à accélérer. Je me souviens, j'avais le Adam qui m'encourageait. Il disait, ah ouais, come on, let's go. Faut just a little more. Puis là, je le sais que c'est juste 1 kilo. Il me reste juste un cinquième. Allez, on pousse. Finalement, j'ai réussi à closer ça quand même assez vite en 2,49. Au final, j'étais bien content. Je pensais ça, un 5 km, faut juste pas faire l'erreur de partir trop lentement. C'est juste pas grave si vous faites un 5 km juste pour vous testez votre premier 5 km, je vous recommande pas de faire ça comme ça. Allez-y plus tranquille, plus conservateur. Celui-là, je l'ai même fait un peu conservateur, je crois, parce que j'avais aucune idée où est-ce que je me situais. Je pense qu'un 5 km optimal, c'est le deuxième ou troisième qu'on va courir dans une saison, quand on sait vraiment à quel niveau on est et jusqu'où on peut pousser. Mais c'est ça, si vous recherchez vraiment la performance, si vous voulez aller chercher un record personnel sur 5 kg, selon moi, la majorité du temps, vous ne devrez pas être complètement à l'aise. Vous devrez vous sentir comme « je vais un peu trop vite, mais je suis capable de maintenir ça ». Puis vraiment de briser ça 1 kg à la fois. Comme ça, tu as la satisfaction quand tu as fait 1 kg. C'est comme un checkmark, un objectif d'accompli. Puis de briser ça mentalement, c'est important parce que le mental joue un gros rôle. Si on voit ça juste comme un bloc de 5 kilos, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui ça marche, mais pour la majorité des personnes, je crois que c'est mieux de juste briser ça un à la fois. Puis une fois que tu es rendu à 4 sur 5, tu te dis ben là, il me reste juste un cinquième, j'ai déjà fait 4 sur 5. Au final, j'ai utilisé ce 5 km-là pour mon temps aux 5 km du demi-marathon Mont-Tremblant. Et je l'ai aussi par la suite utilisé pour le 5K Banque Scotia. Donc j'avais encouragé une couple d'épisodes de vous inscrire aux courses virtuelles du Canada Running Series qui ont dû annuler le demi-marathon Banque Scotia pour un peu les encourager pour qu'il y ait moins de pertes. Je crois que c'est autour de 35$. C'est sûr, c'est un peu moins motivant quand il y avait, par exemple, le 5 km ou toutes les distances du demi-marathon Mont-Tremblant qui étaient toutes gratuites à faire virtuellement. Mais ça vient quand même avec un T-shirt et une médaille. Donc, si vous voulez avoir ça, moi je l'ai fait. J'avais eu un code pour les élites et j'ai rentré mon temps, j'ai rentré le GPX file et après ça, je vais pouvoir. On avait soit l'option de se faire livrer par la poste ou vous pouvez passer le chercher à une des boutiques courir, aller chercher votre médaille et votre chandail. Si vous recherchez un chandail, puis une médaille, c'est toujours le fun, des médailles, puis disons que ça va être une médaille un peu mémorable. Inscrivez-vous, puis aidez un peu ces compagnies qui organisent des courses de qualité à récupérer leurs pertes. Et donc là, on va aller sur maintenant le demi-marathon Mont-Tremblant. J'avais lancé l'invitation à tous les auditeurs du monde de la course de rejoindre mon équipe pour essayer d'aller chercher le prix qui était 10 inscriptions pour l'année 2021, 10 t-shirts et 10 passeports demi-marathon Mont-Tremblant. Malheureusement, on s'est fait avoir. J'étais un peu surpris, mais en même temps moyennement surpris quand j'ai vu l'équipe qui nous a battus. Dans le fond, c'était l'équipe de Soul Peaks Crew. Au moins, on n'a pas perdu par très peu. Là je m'en serais voulu vu que j'ai pas pu faire de demi-marathon le lendemain. J'ai juste pu faire un 10 à cause de ma blessure. Donc, ils ont fait 351 km. L'équipe gagnante, nous, on a été deuxième avec 232 7 km et le club de ski Mont-Tremblant a terminé troisième avec 216 km. Donc au moins on a montré au club de ski c'est qui les vrais. J'ai juste trouvé ça drôle. Ils ont fait un post sur le club de ski, puis c'était des enfants. Fait qu'on a battu des enfants. Bravo gang, on leur a enlevé leur médaille d'argent. Plus sérieusement, on était là plus pour essayer de remporter la première place. J'avais raison quand je pensais qu'on aurait plus de participants que l'équipe qui était meneuse. Je savais que c'était Soul Peaks qui menait parce qu'ils avaient ramassé le plus de kilomètres dans les défis des semaines précédentes. J'avais compté, ils devaient être environ 10-15, puis on m'a confirmé qu'ils étaient une quinzaine. L'affaire, nous, on était plus, on était, je pense, 22 ou 24, on était plus que 20 en tout cas, mais la différence, c'est qu'eux étaient ultra motivés, Et ils sont vraiment arrangés. Eux, ils sont basés à Mont-Tremblant. J'ai vu le Mont-Tremblant. Ils ont fait un post sur eux qui, comme quoi qu'ils avaient couru tous ensemble. On peut voir là, le Soul Peaks Crew qui s'était. Ils s'étaient réunis, ils sont local de là-bas. Donc, ils sont habitués de le faire à chaque année. Ils se sont donné rendez-vous. Puis, je pense qu'il y en a une couple qui ont fait peut-être un demi plus un 10. Donc, ils étaient juste. Plus motivés, on était plus nombreux, mais c'est comme si eux, ils étaient les Spartiates et nous, on était je me souviens plus c'était quoi dans le film 300, mais pas les Romains, mais bref, il y avait des unités militaires qui se faisaient démolir complètement, même s'ils étaient 3 fois plus nombreux ou 10 fois plus nombreux. Bref, bravo à Soul Peaks Crew qui ont réussi à garder le Grand Prix à Mont-Tremblant. Mais je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui se sont joints à mon équipe. On était, je pense, l'équipe la plus nombreuse et on était aussi l'équipe qui a eu le plus de podiums. Fait que tout d'abord, je veux remercier tous les membres de l'équipe, donc Vincent Nadeau-Benoît, Simon Bernier, Hugo Champagne, Jean-François Caron, Audrey Marcotte, Vincent Richard, Philippe-André Lafrance, Frédéric Perraudeau, Sabrina Forêt-Lefebvre, Manoflo Saint-Jean, Alvaro Cueto, François Davidson, Edson Woman Flores, Louis Deslauriers, Audrey Benoît, Mathieu Pollard-Duquette, Sophie Labossière et Nathanaël Beaulieu. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Malheureusement, je peux pas partager de butin avec vous vu qu'on a fini deuxième, mais votre support a été apprécié puis on a failli les. Ben, c'était pas si serré que ça, mais on a quand même eu la deuxième place alors qu'on venait vraiment de nulle part. Donc, félicitations. Puis félicitations, je sais que là-dedans, il y en a qui c'est pas nécessairement des coureurs qui font des 150 kilos semaine ou 100 kilos semaine. Il y en a une couple que je sais que certains sont mes amis, puis je sais qu'ils font ça. C'est plus des coureurs COVID, si on veut, qui ont commencé un peu avec la COVID. Ben, je pense que c'était un peu ça l'objectif, c'était de faire courir tout le monde. Ben, ils ont quand même réussi leur mission, le demi-marathon, l'équipe du demi-marathon Tremblant avec ce demi-marathon virtuel gratuit, accessible à tous. Félicitations à ceux qui ont fait des podiums dans notre équipe. Donc, le demi-marathon Mont-Tremblant a fait un petit post à propos de cela, à propos de notre équipe. Comme quoi, je pense qu'on avait le plus de podiums dans leur compétition. Mais moi, j'ai eu l'or aux 5 kilos. Puis on a aussi eu, dans le fond, Simon Bernier qui a eu la deuxième place aux 5 km dans sa job de pacing. Je pense que c'est pour Liz. Manoflo Saint-Jean, deuxième aux 10 km en 39-21. Vincent Nadeau-Benoît, premier au demi-marathon, 1:30-49. Et Hugo Champagne, deuxième au demi-marathon, 1:34-29. Donc, quand même l'équipe la plus décorée, je crois, du demi-marathon virtuel de Mont-Tremblant. Parfait. Maintenant, je voulais retourner un petit peu sur le dernier épisode. Ça va pas être long, inquiétez-vous pas, c'est pas un long rant. J'ai eu surprenamment pas vraiment de commentaires comme de gens fâchés que je bâche sur la FQA ou quoi. Puis, mais c'était pas non plus du bashing, mais bref, que je critique les critères de sélection pour le marathon, pour les coureurs de marathon, les coureurs sur route. J'ai eu certains commentaires. Par exemple, j'avais quelqu'un qui me disait que c'était un problème de coaching un peu, qui disait qu'il y avait, je pense que c'était Ben Leduc qui avait dit ah, donnez-moi des jeunes, puis je vais les transformer en top marathonien qui pourrait aller à la poursuite du record québécois sur marathon. Personnellement, je pense pas que c'est un problème de coaching. J'ai l'impression qu'il y a bien d'autres problèmes, dont ceux que j'ai mentionnés, de l'argent qui ne coule pas à flot, disons, pour les coureurs sur route dans les coffres de la FQA. Ouais, j'ai pas l'impression. On a plein de coachs vraiment qualifiés. Moi, je pense à mon coach, John. Je pense à Doris. Je pense à Félix-Antoine Lapointe. Là, il y en a plein d'autres super bons coachs. Désolé si je vous nomme pas, mais je vais pas nommer toutes les coachs que je pense qu'ils sont super bons au Québec, mais il y en a plein. J'ai pas l'impression que c'est un problème de coaching. L'entraînement, à peu près tous les coachs que je connais, comme ils connaissent bien, de ce que je sache, ils connaissent bien les bases de l'entraînement, ils font pas n'importe quoi. Donc les athlètes peuvent atteindre leur plein potentiel avec ça. Moi, je pense que c'est un problème d'athlète, si on veut, mais pourquoi est-ce que c'est un problème d'athlète? En partie parce que les athlètes n'ont pas vraiment la motivation, si on veut, de se concentrer à 100% sur ça parce qu'ils ne peuvent pas vivre, du moins avec un confort minimum, étant donné qu'ils reçoivent très peu d'argent pour ça. J'avais aussi un autre commentaire comme quoi que ce serait un problème d'identification du talent. Et ça, je suis un peu plus d'accord. C'est sûr que ça fait une différence, je pense. Par exemple, ton prof de gym te fait courir quand tu es jeune, je pense qu'il y a plus de chances que tu te mettes à la course. Mais je pense aussi que c'est en grande partie juste une question de c'est quoi qui intéresse le Québec. Les jeunes, il y en a de plus en plus, je pense que ça monte un petit peu, qui s'intéressent à la course, mais on n'est rien comparé, mettons, au Kenya, que là, vraiment, une grande partie des jeunes s'intéressent vraiment à la course parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon de sortir de la pauvreté. Donc, s'il y avait autant de jeunes qui s'intéressent au hockey, qui s'intéressaient à la course, je pense que le record serait tombé, ça fait un petit bout, mais je pense que le fait que ça soit moins valorisé ou priorisé au Québec, peut-être que c'est une des raisons. C'est sûr aussi, c'est la course à la base, c'est pas le sport qui va le plus être intéressant pour la jeunesse, si on veut, de « oh wow, je suis bon à courir vite », c'est moins cool à dire que hey, je suis capable de scorer plein de buts au hockey, mettons, ou au soccer. Je pense que c'est ça. Je pense que ça passe un peu par les profs de gym, en effet, qui vont aller piquer l'intérêt des jeunes. Je sais qu'il y a des initiatives. Je pense que c'est les foulées de Brunet-Surin, qui était une initiative de la FQA, je pense, pour un peu initier les jeunes à l'athlétisme. Donc, je pense que ça passe par là en partie. Mais comme je l'ai déjà itéré, je crois que ça passe aussi en grande partie par l'argent qui peut être fait par les coureurs sur route. Et je ne vais pas retourner sur les explications exactement. Puis je voulais un peu parler de mythes sur l'argent fait par les athlètes sur route commandités. J'ai l'impression qu'il y a du monde, des gens qui pensent que quand tu es commandité, tu fais nécessairement de l'argent. Moi, j'ai pas signé de non-disclosure agreement, de choses qui fait que j'ai pas le droit de révéler c'est quoi mon contrat avec Skechers. Donc, je vais vous dire c'est quoi mon contrat avec Skechers. J'ai droit à 12 paires de souliers par année, ce qui est super. C'est vraiment, j'en ai besoin. Puis si je devais les payer, ça serait un autre coût puis un autre incitatif de moins pour moi à continuer à faire de la course. Donc, c'est super. Mais c'est pas mal ça. Des fois, je reçois aussi des vêtements, un peu de gear de course. Mais c'est ça, je reçois pas d'argent. Je reçois pas une scène en termes de cash de Skechers. Et c'est très rare des athlètes qui vont vraiment recevoir de l'argent ou sinon de l'argent significatif de la course. Je pense qu'un des rares qu'on a au Québec, à part les vraiment, disons... en tout cas, en course, on a Charles-Philippe Thibouteau qui en faisait dans son temps à ses débuts avec Asics. Je ne sais plus si c'est le cas en ce moment vu qu'il a été blessé pendant un bon bout. Mais c'est ça, à cette époque-là, c'était pas mal ça. Il y avait peut-être quelques sprinters potentiellement, mais je ne suis pas sûr vraiment si elles faisaient de l'argent. Je pense que l'argent qu'elles avaient, les top sprinters québécois, c'était avec leur carding. Donc, je pense pas. Puis là, si on parle sur route, C'est qui le dernier athlète sur route qui a reçu de l'argent par un sponsor? Je pourrais pas vous dire. Je sais que des fois, il y a certains athlètes peuvent aller chercher des petites commandites par-ci, par-là, par le biais de connaissances qu'ils ont. Donc, des fois, si tu as un contact mettons qui travaille dans un magasin quelconque, puis tu t'en vas faire un camp d'entraînement, tu peux dire, ah, voudrais-tu sponsoriser mon camp d'entraînement? Puis des fois, ça se peut qu'ils disent oui, donc ils te payent, mettons, le billet d'avion, mettons, 1 000 $, 1 500. Je sais que Mélanie, elle avait reçu ça, je crois, par la boutique Endurance. Il y avait ramassé un peu d'argent avec des petites conférences. Puis je pense qu'elle avait eu des billets. Son billet pour Rotterdam, je crois, avait été payé de même, si je ne m'abuse. Mais c'est pas mal ça. À ce que je sache, Mélanie, qui est la top au Québec non plus, a jamais reçu de cash pour un contrat de souliers, du moins. Je sais qu'elle a reçu des montants par-ci par-là, mais c'est pas sur ça qu'elle compte pour vivre. Puis là, je vais vous donner un exemple assez flagrant. Trevor Hofbauer, qui a remporté les derniers championnats canadiens de marathon à Toronto en faisant le deuxième meilleur temps canadien de tous les temps en allant sous 2:10, ce qui l'a qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. À ce jour, à ce que je sache, il n'est pas commandité par une compagnie de souliers. Il a reçu une commandite de Morton, qui est la compagnie dont j'ai parlé dans le dernier ou avant-dernier épisode quand je parlais de leur. Dans le fond, eux, c'est une compagnie de drink, un peu comme Gatorade, de drink de course, qui, eux, ben, dans le fond, ils se vantent que leur drink est plus facilement un peu digestible, il se fait plus absorber facilement, il permet au corps d'absorber plus de carbohydrates. Donc, théoriquement, si c'est le cas, ben, les jambes seraient moins vides de glycogène et pourraient continuer à courir plus vite. Donc, dans le dernier épisode, je disais je mentionnais l'étude qui venait de sortir qui ne trouvait pas de différence entre ça et du Gatorade. Eh bien, je sais qu'il a reçu une commandite de Morton. Est-ce que sa commandite, c'est juste des gels gratuits puis c'est tout? Je penserais pas, vu qu'il est le top canadien. Je pense que ça vient peut-être avec un peu d'argent, mais est-ce que je pense qu'il fait même 30 000 de ça? Je pense pas. J'ai l'impression peut-être que ça venait avec un 10, 15 000 plus des gels à profusion. Mais c'est ça, puis lui, c'est le top au Canada, espoir olympique, il a fait toute une performance. Mais il y en a peut-être qui vont dire que c'est Cam Levins, mais en tout cas, Cam Levins n'a pas eu la meilleure performance cette journée-là. Puis vraiment, il est un des tops au Canada. C'est ça, quand il est rentré dans la course, il était absolument non sponsorisé. Je sais qu'avant, c'était un athlète New Balance. Mais je pense pas qu'il recevait d'argent de New Balance. Encore une fois, je pense qu'il recevait juste des souliers gratuits. C'est à peu près c'est le deal de sponsorship le plus commun de recevoir du gear gratuit. Et la plupart des athlètes élites ben, vont le prendre parce que sinon c'est rien. Parce qu'avoir un deal avec de l'argent, il faut vraiment être à un autre niveau. Je sais que les triathlètes, c'est un peu une autre game. Il y a beaucoup plus, ils dépendent beaucoup plus des sponsorships, donc ils peuvent peut-être qu'ils n'ont un peu plus, mais encore là, oui, Lionel Sanders, il fait du cash avec ça, mais encore une fois, je ne sais pas pour les autres à quel point est-ce qu'ils reçoivent vraiment du cash de leur sponsorship, peut-être certains voyages payés, versus des produits, des barres énergétiques, des gels, des affaires comme ça. Mais bref, il n'y a pas l'argent des sponsorships, c'est pour la grande majorité des coureurs, puis surtout coureurs sur route, c'est pas ça qui va leur permettre de vivre la course, pas du tout, parce que d'habitude c'est 0 $. C'est les bourses qui nous permettent plus de vivre un peu partiellement de la course. Ça, c'est une des grosses parties. Ben, l'argent de la FQA si on est capable de l'avoir, mais ce qui n'est pas le cas depuis belle lurette. Aussi, un point qui avait été mentionné quand même intéressant, dans le temps, à l'époque, un coach qui avait un athlète élite recevait 15 000 $. Je sais pas si c'était du gouvernement du Canada ou du Québec. Mais à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, il faut deux athlètes élites pour faire 3 500 au Québec. Donc, c'est pas du tout la même game qu'avant. Je ne sais pas exactement c'était quoi tous les critères pour le 15 000, mais je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas. Je connais pas vraiment de coach. Peut-être Félix-Antoine Lapointe, mais je pense que ça viendrait plus de son statut de coach en chef du Québec. Donc, ça aussi, ça change un peu la donne quand même que les coachs puissent vivre de leur coaching et donc se concentrer à 100%. Mais honnêtement, je suis plus de la philosophie que ça vient de l'athlète. Un coach, son rôle, c'est simplement de bien encadrer l'athlète, de prendre certaines décisions pour lui. Mais au final, la performance dépend grandement, beaucoup plus de l'athlète. Puis c'est pas une question que l'athlète doit avoir un coach miracle pour bien performer. Selon moi, tant que le coach est compétent, qu'il ne fait pas faire n'importe quoi, qu'il l'amène dans la bonne direction, après ça dépend vraiment de l'athlète. Donc je pense que c'est un peu plus ça les raisons pourquoi ça n'avance plus tant l'élite sur route au Québec. Petit retour sur le marathon de Londres. Dans le fond, j'avais dit qu'il était annulé, mais j'avais pas vu cette petite précision quand même. Le marathon pour élite aura lieu. Donc, ils vont faire, je sais pas s'ils vont tout bloquer le parcours au complet, mais il y aura un marathon de Londres pour élite. Et donc, on va pouvoir voir un duel Eliud Kipchoge versus Kenenisa Bekele. Bekele, qui était le détenteur du record du 5 000 mètres jusqu'à la semaine passée, ou dans les ça fait 4-5 jours environ de cela, qui maintenant ne l'est plus. Mais ça va être très intéressant à voir quand même parce que Bekele a eu toute une performance au marathon récemment. Je ne me souviens plus c'était quel marathon précisément, mais il y a eu un très bon résultat. Donc, il est en bonne forme, du moins aux dernières nouvelles. Puis donc, de faire face à Eliud Kipchoge, ça va être un duel qu'on voudra vraiment regarder. Kipchoge, le champion, le détenteur du record au marathon en ce moment, champion olympique au marathon et tout le kit. Je pense pas que j'ai besoin de faire plus d'introductions. Personnellement, si j'avais à dire qui devrait gagner entre les deux, quand même très difficile parce que je trouve que un des critères les plus importants pour savoir, pour déterminer qui a le plus de chances de gagner une course, c'est les performances récentes. Parce qu'un athlète peut avoir fait des grandes choses dans le passé, mais ne pas être au même niveau à un moment donné. Bekele, je pense qu'il a la meilleure performance récente, si on veut. Mais quand même, je crois que la constance d'Eliud Kipchoge, je pense qu'on peut pas, on peut pas vraiment lui enlever que c'est le champion. Il a gagné l'athlète de l'année dans tout sport confondu, je crois, l'année passée, grâce à sa performance sous 2 heures au marathon. Je pense que c'est vraiment la constance incarnée. Donc, je crois que je penche du côté d'Eliud Kipchoge si j'avais à faire un pari là-dessus. Mais ça va être vraiment une course à regarder. C'est quand même un côté positif de savoir qu'il y aura les courses pour élite qui auront lieu. Donc, à voir, à suivre. Maintenant, il y aura aussi, j'avais oublié de mentionner, il y aura des grosses bourses aux 200 000 à l'heure, l'événement d'Alvaro. 250 $ pour le gagnant, ça c'est pour un 1,6 km, en fait 1609 mètres, 1 mile. Donc je pense que c'est les plus grosses bourses qu'on a vues à ce jour pour 1 mile sur route au Québec. Et il y aura même, il a même réussi à aller chercher 200 $ de plus pour la performance. Donc, si un homme fait en bas de 4,10, puis pour une femme, je pense que c'est 4,50, si je ne me trompe pas, ben, il y aura un bonus de 200 $. Donc, techniquement, la première personne pourrait gagner 450 $ pour juste un mile, juste avoir couru un mile, mais un mile très rapide. Quand même, 4,10, c'est en dedans de 10 secondes. Il faut être en dedans de 10 secondes d'un sub 4 minute mile, donc ce qui n'est pas rien. Donc ça va être quand même intéressant. Je vais être présent à coup sûr. Il y a de l'argent facile à faire, puis j'aurai pas d'argent de la FQ cette année, donc va aller chercher ça, essayer de chercher ça. Mais ça se peut qu'avec l'annonce de ces bourses, il y a peut-être d'autres mondes qui vont venir s'essayer. Donc si vous voulez vous essayer, si vous êtes vraiment élite, peut-être contactez Alvaro. Puis sinon, inscrivez-vous quand même, ça va être le fun. Ça va être un événement vraiment qui devrait être très le fun. C'est pas souvent qu'on a la chance de se mesurer sur cette distance. Et même aussi, il a réussi à avoir un petit deal avec la compagnie chronométrage. Il y aura aussi un tapis à 1500 mètres. Donc, vous pourrez aussi voir votre temps de 1500 mètres. Vous n'aurez pas à faire vraiment de conversion puis dire ah, j'aurais probablement valu ça sur 1500. Vous pourrez le voir, les chiffres exacts de votre temps de passage à 1500. C'est deux résultats pour le prix d'un. Qu'attendez-vous? Allez vous inscrire aux 200 000 à l'heure d'Alvaro qui aura lieu à Longueuil. Je sais plus trop la date, c'est début septembre, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Très bien, et voilà, j'avais déjà dit ça. Donc maintenant, le record du monde de 5000 mètres a été effectué par Joshua Cheptegei de l'Ouganda, un jeune de 23 ans. De ce que j'avais vu de son affiliation, il était avec la NN Running Team. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est l'équipe, c'est une équipe vraiment d'élite. Je pense qu'ils sont basés au Kenya, je ne suis pas sûr, mais ils ont beaucoup d'athlètes kényans, dont Eliud Kipchoge, qui est vraiment un peu la figure de proue de cette équipe. Mais ils ont vraiment beaucoup de top coureurs. Beaucoup de records du monde ont été faits par les coureurs de cette équipe-là. Le marathon de Montréal de l'année passée avait été gagné par un coureur de la NN Running Team, un jeune espoir. Donc 12:35:36, c'est complètement débile. J'écoutais les commentateurs, ils racontaient qu'il faut faire trois fois un mile en 4,02. Donc imaginez, c'est 2 secondes plus lent qu'un record qui était pensé imaginable, inimaginable en 1960. Tu fais ça trois fois, plus quelques mètres. C'est une allure moyenne d'environ 2,31, 2 minutes 31 du kilo, 5 fois. Je pense que moi-même, personnellement, je pense que j'ai jamais fait en bas de 2,34. Je pense que 2,34, c'est mon meilleur temps au 1000 mètres sur piste. Lui, il fait ça, il fait 2,31 puis il le fait 5 fois, complètement débile. Il a effacé le record, mais il l'a pas effacé, le record, ben, c'est plus un record, mais il a effacé le temps, le world lead de la légende Kenenisa Bekele, qui était de 12:37,35. Il a enlevé quasiment 2 secondes, juste en bas de 2 secondes, un record qui datait depuis 2004, donc 16 ans. 16 ans de vieillesse, ce record. Aussi, un truc intéressant, un autre stat, c'est 60 secondes de moyenne aux 400 mètres pendant 12 tours. Je vous dis, allez à une piste près de chez vous et essayez de faire un tour, un seul tour, 400 mètres en bas de 60 secondes. Personnellement, je pense que je suis capable de faire ça, mais je suis vraiment essoufflé à la fin. C'est vraiment quasiment un sprint pour moi. Je pense que la majorité de la population n'est pas capable de faire ça, 400 mètres en bas de 60 secondes. Lui, il en fait 12,5 de suite. Assez incroyable. Là, je sors beaucoup de stats de RunX, c'est IX, donc une page Facebook qui est quand même assez intéressante, qui sort beaucoup de stats intéressantes quand tu es de record du monde. Donc, allez les suivre si vous aimez ça, voir ça dans votre Facebook feed. C'était toute une performance dans le. C'était un Diamond League Meet à Monaco. C'était le premier post-COVID. Dans le fond, il est quand même très fort. C'était le champion du monde de 10 000 mètres à Doha, Joshua Cheptegei. Il avait le record du monde du 10 km à Valence en 26-38. Record du monde de 5 km route qu'il avait fait à Monaco aussi, 12-51. Et là, il venait de réaliser le record du monde de 5 000 mètres, encore une fois à Monaco, mais sur piste. Ça, c'était ses 4 dernières courses. Donc, c'est assez débile. Moi, je serais content si une seule de mes courses était un de ces accomplissements-là. Je pense que n'importe qui le serait. Puis lui, c'est juste ses 4 dernières courses. C'est juste ça, juste des petits records du monde, puis des places, des titres de champion. Du monde. Encore une fois, une statistique intéressante de Runix. Ouais, vraiment impressionnant pour ce concours de ce concours. Ce coureur de l'Ouganda, seulement 23 ans. Ça devrait être intéressant de le voir quand il va s'attaquer au marathon, mais ça devrait prendre quelques années. Je pense qu'il va continuer à essayer de battre des records de 10 000 et de 5 000 mètres. Et un petit fait intéressant que j'ai remarqué quand je suis allé voir la course sur Internet, c'est disponible sur YouTube et compagnie. J'ai vu que c'était la Wanda Diamond League. Je vais vous en dire, Wanda? Ça me dit quelque chose, Wanda? C'est normal que ça vous dise quelque chose si vous êtes un auditeur assidu du monde de la course, parce que Wanda, c'est eux les petits vlimeux qui ont organisé indirectement le marathon de Montréal durant les dernières années. En fait, Wanda ont acheté le Ironman Group qui, eux, ont acheté le Competitor qui, eux, s'occupent des courses, des marathons Run Rock'n'Roll. Et donc, ben, je vous avais dit ce que je pensais d'eux. C'est maintenant le sponsor officiel de la Diamond League. Et ce, pour 10 ans. Ils ont fait un beau petit contrat pour 10 ans. Je pense que ça ne le dit pas ici, mais il avait fait une petite annonce. Donc, ben, pendant 10 ans, soyez prêts à entendre leur nom et être triggered à chaque fois que vous écouterez une compétition de la Diamond League, parce que maintenant ce n'est plus la Diamond League, c'est la Wanda Diamond League. Ils ont sûrement donné un beau petit paquet d'argent. Évidemment, c'est un deal, ils ont le droit de faire ça, c'est un sponsorship. Ils sponsorent la Diamond League et vous allez voir leur nom souvent. Et justement, parlant du marathon de Montréal, j'ai vu cet article, et Philippe me l'a partagé. Phil Blackburn, il m'a partagé l'article sur la page Facebook du Monde de la course. Il me dit: aucune nouvelle du marathon de Montréal sur la tenue de la course en septembre. Il partage un article qui parle justement que la ville de Montréal veut un différent promoteur pour le marathon. Il a dit: moi, j'ai payé 100 $ d'inscription l'an passé pour m'inscrire avant tout le monde, avant les déboires du jour de la course. Et ça, c'est le classique. Je me souviens, il me l'avait dit, puis il était fâché parce qu'il avait vu après toutes les déboires. Lui, dans le fond, c'est quand tu te rends à l'expo pour aller chercher ton race bib, le petit pack avec le t-shirt et compagnie. Ils essaient de te vendre souvent une inscription pour l'année prochaine à prix réduit, tu sais. Beaucoup de personnes se sont fait avoir par ça. Puis je comprends un peu, tu sais, c'est un rabais, pourquoi pas, pourquoi ne pas prendre un rabais? Dans le fond, ces personnes-là, je pense qu'il y en avait beaucoup qui voulaient des remboursements tout de suite après les déboires du marathon l'année passée, en voyant que c'était une organisation tout croche. Dans le fond, je pense pas que vous allez revoir votre argent, ceux qui vous êtes inscrits. Dans le fond, on va con juste continuer sa petite publication. Plusieurs personnes ont sûrement payé plus que moi par la suite. Une dernière fois que je m'étais dit, je le regrette en maudit aujourd'hui, maintenant que la ville confirme que ce ne sera plus Ironman l'organisateur, qu'arrivera-t-il de mon argent? Ironman va transférer l'argent aux nouveaux organisateurs? Non. Laissez-moi en douter, nous rembourser à la manière dictatoriale d'Ottawa, qui avait offert 50% pour l'année suivante, je crois, de rabais, puis c'était tout. Cool, je vais avoir 50 $. Okay, donc, je pense qu'il avait remboursé 50% peut-être du prix aussi, mais c'est pas du tout proche du prix plein. Dois-je le rappeler toujours? Aucun courriel de la part d'Iron Man à un mois de la course. Ça s'annonce mal pour la suite des choses. Totalement absurde. Faut comprendre, c'est sûr qu'il y a des gros coûts pour les organisateurs qui sont déjà payés les médailles, possiblement. Je sais pas, je sais qu'Ottawa, c'était le cas. Puis donc, ils étaient déjà beaucoup dans le trou. Je pense pas que non. Par contre, que ça excuse la façon qu'ils ont décidé de faire les choses. Il disait, je me souviens, l'organisateur disait, ah, c'est parce que si on fait pas ça, on pourra pas avoir d'événement l'année prochaine. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres courses qui trouvent le moyen. C'est sûr, c'est une grosse course, mais bref, je sais que le 21K Banque Scotia de Montréal, ils ont trouvé façon dans le Canada Running Series. Sûr, c'est une plus grosse organisation, mais justement, plus grosse organisation, ça devrait être plus complexe à gérer, plus de gens à payer. Donc, c'était pas super. Je pense que c'est ça qu'ils ont offert un petit remboursement partiel. C'est correct de ne pas rembourser 100%. Ça, je serais d'accord. S'ils remboursent, mettons, 80-85%, que tu enlèves quelques frais comme vraiment que là, ils peuvent pas aller se faire rembourser. Mais là, de là à donner un petit 50 $ sur un 100 pièces, je pense que c'est ridicule. Et honnêtement, je pense même pas que les gens qui sont inscrits en ce moment au Marathon de Montréal vont avoir une scène. Je pense que vous allez simplement pas vous faire rembourser, malheureusement. Je pense qu'ils vont dire, malheureusement, c'était écrit dans nos conditions que si dans telle éventualité, on n'est pas obligé de vous rembourser. Sorry, mais je pense que ça va être le cas. Ça se peut qu'il y ait des poursuites contre l'ancienne organisation du Marathon de Montréal. Possiblement, je sais qu'il y en avait eu contre Ottawa. En ce moment, comme l'a dit Philippe, et comme je l'avais souligné dans peut-être pas le dernier, mais sinon l'avant-dernier épisode, toujours aucun message du Marathon de Montréal. Ils n'ont toujours pas officiellement annoncé sur le site web que c'est annulé. Ils ont envoyé aucune communication. Puis on est là, on est à un mois de l'événement. Tous les autres marathons qui n'ont pas lieu l'ont annoncé. Eux, c'est toujours pas le cas. Donc j'ai des forts doutes que les gens reverront leur argent. Malheureusement, c'est pas une organisation, je crois, qui ont la satisfaction du client à cœur, mais plutôt les profits. Désolé pour ça. Et donc, dans ce nouvel article de la presse, l'administration Plante annonce qu'elle cherche un promoteur québécois et surtout transparent pour organiser le Marathon de Montréal pour l'année prochaine. Donc, je trouve que c'est une super nouvelle. Je pense que la ville de Montréal a écouté tous les gens qui étaient un peu tannés d'une organisation tout croche, puis qui veulent une organisation qui s'en soucie vraiment de l'expérience des coureurs, parce que, comme j'ai déjà mentionné, ça a un effet sur toutes les courses, un effet de rayonnement sur toutes les courses. Si c'est pas une belle expérience, les gens ont moins de chances de s'inscrire à d'autres courses au Québec. Puis s'ils ont une belle expérience, ben là, ils vont peut-être s'inscrire à d'autres événements plus tard en octobre ou même en novembre, puis pour les années futures. Tandis que si jamais ta première expérience de courir une course, c'est un retard de 50 minutes, je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que tu aies envie d'en refaire d'autres. Ils vont rechercher un promoteur québécois, je pense, c'est un peu de l'allure parce qu'il y a plus de chances qu'ils se soucient un peu que ça se passe bien, puis de leur réputation. Qu'ils vont s'assurer d'offrir une bonne expérience aux coureurs. Ça va être intéressant de voir. Je pense qu'il y a un appel d'offres en ce moment à toutes les OBNL, organismes à but non lucratif, d'aller faire des soumissions pour pour être le prochain organisateur. Ouais, c'est un appel de proposition, c'est bien le terme. Ben, si vous êtes une personne qui veut organiser le marathon de Montréal ou que vous connaissez quelqu'un qui devrait le faire, contactez-les. Moi, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un qualifié. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui le sont, qui ont déjà mentionné leur intérêt. Donc, ça va être le fun. Ça va être vraiment le fun si ça peut être de ces personnes-là ou d'autres personnes qualifiées qui organisent ça. Parce que ça serait le fun de pas. À chaque fois que je parle de mon marathon, du marathon de ma ville, ce soit pas pour bâcher dessus, mais plutôt juste pour me rappeler de bons souvenirs. C'est le fun de voir qu'une réaction finalement de la ville pour faire un changement pour le mieux, de un peu montrer notre mécontentement, puis que si une compagnie décide d'être sauvage puis de pas offrir une bonne expérience aux gens, ils pourront pas rester, ils ne pourront pas renouveler leur contrat. Donc au moins un silver lining, une bonne nouvelle, un petit peu si on veut, parmi les mauvaises nouvelles pour ceux qui ont déjà donné leur argent pour la prochaine édition qui sera probablement pas organisée, mais en fait qui ne sera pas organisée par le competitor group Run Rock'n'Roll. Ouais, contactez tout de suite vos avocats, moi je vous dirais, attendez de voir leur réponse, je pense que vous aurez, si vous voulez vous faire rembourser, il va falloir passer par les avocats. On avait eu, j'avais annoncé au dernier épisode, une tentative de record du monde de dénivelé en 24 heures qui aurait lieu au Mont-Sainte-Anne par l'athlète Jean-François Cochon. Un athlète de trail québécois. Malheureusement, un peu avant la moitié, il a fait une mauvaise chute. C'était lors du 21e tour sur 52. Une blessure un peu étrange et un peu dégueulasse. Il s'est fait transpercer l'oreille par une branche d'arbre lors d'une chute. Puis il a dû être transporté à l'hôpital pour faire des examens et vérifier l'état de son tympan. Là, je vous lis l'annonce de Distance Plus. Je ne sais pas s'il y a eu plus de détails sur ça, mais malheureusement, il n'aura pas pu vraiment tester les limites de son corps, vu qu'à la place, c'est une chute qui a dû arrêter ça. On espère qu'il n'y a pas trop de dommages permanents à son ouïe ou à son oreille. Suite à cette chute, puis ça, il devait être opéré dimanche passé pour faire retirer le morceau de bois. On espère que ça s'est qu'il était resté coincé. On espère que ça s'est bien réglé, qu'il pourra réessayer si ça lui tente toujours ce défi-là. Et finalement, une bonne nouvelle, un défi qui s'est mieux soldé. Mathieu Blanchard, encore une fois, j'avais mentionné qu'il s'attaquait au défi du GRA1. Il a complété son défi. Ça fait quasiment une semaine de cela. Désolé du retard. Il a parcouru les 650 km et 25 350 mètres de dénivelé à travers la Gaspésie en 7 jours, 12 heures et 2 minutes. Je ne sais pas c'est quoi le temps qu'il visait exactement. Je pense qu'il visait en bas de 9 jours ou 8 jours peut-être. Donc en tout cas, peu importe, il a réussi son défi. Je pense que son défi, c'est surtout de le compléter et de réaliser un fastest known time. Avant ça, je pense que le temps le plus rapide qui avait été enregistré, c'était autour de 20 jours. Donc il est venu améliorer ça de loin. Il devait courir. Ah oui, le temps de référence était jusque-là de 19 jours et 5 heures selon Distance Plus. Une publication qui a été beaucoup partagée, je pense 1500 partages quasiment, peut-être une centaine, mais en tout cas beaucoup de likes et compagnie. Je pense que les gens ont été assez impressionnés. Je pense que c'est la performance la plus impressionnante de Mathieu Blanchard que je connaisse jusqu'à ce jour, du moins en termes de défis vraiment comme pour impressionnant, là, de grosses distances. Il y avait aussi vraiment impressionné au UTMB l'année passée. Je pense que ça aussi c'était fort, mais je m'y connais un peu moins en trail, donc je sais pas, Je sais que c'était très fort, il avait été classé dans les tops mondiaux. Mais en tout cas, personnellement, juste d'un point de vue de gars qui s'y connaît un petit peu moins entre elles, je trouve ça c'est quand même très impressionnant parce qu'il faut dire, il courait plus que 2 marathons par jour en moyenne. Donc, courir plus de 2 marathons par jour pendant 7 jours et demi, c'est quand même tout un exploit. Surtout moi quand je pense qu'il y a tellement de blessures ou d'affaires qui pourraient m'empêcher de compléter ça. C'est facile quand on se dit, on y pense, ah ben t'as juste à courir tout le temps. Mais non, à un moment donné, le corps a des limites. Puis que ce soit des blessures ou simplement juste la fatigue musculaire, c'est tellement de choses à gérer. La nutrition pour s'assurer de pas trop perdre de poids parce que en fait le défi beaucoup pour ceux qui font des gros défis sur plusieurs jours comme ça chez je pense à Scott Jurek par exemple leur défi à ces ultra runners de plusieurs jours c'est de pas trop perdre de poids. Je sais qu'à la fin de leur défi ils perdent beaucoup de poids parce que c'est impossible de manger assez physiquement même s'ils mangent comme des porcs pour récupérer toutes les calories qu'ils dépensent. Donc, c'est beaucoup de choses à gérer. Il y avait Nicolas Dan, le chef d'orchestre de ce défi hors norme, selon, je lis encore une fois Distance Plus, la publication, qui a orchestré ça. Il disait que Mathieu est fatigué, mais heureux. Et donc, ben, je le comprends d'être fatigué, puis je le comprends d'être heureux. C'est un bel exploit. Donc, félicitations à Mathieu. Et sur ce, c'est ce qui complète les nouvelles pour cette semaine. On avait quand même beaucoup de stock, surtout avec le record du monde, puis des beaux exploits locaux aussi. Sur ce, allez vous inscrire à une course si vous voulez retrouver cette expérience de course et si vous voulez qu'il y en ait d'autres qui aient lieu. Si les promoteurs de course voient que les gens s'inscrivent, ben ils vont essayer d'en faire. Je vois qu'il y a de plus en plus de petits événements là, de 200, 250 personnes et moins qui se créent. Techniquement, les petits événements peuvent avoir plus de 250 personnes. C'est juste qu'il ne peut pas y avoir plus de 250 personnes en même temps au même endroit. Puis ça, c'est très flou. Au même endroit, qu'est-ce que ça veut dire exactement au même endroit? Il y a beaucoup de lousse là-dedans. En gros, c'est juste de respecter le gros bon sens, je crois, puis de limiter tous les risques inutiles. Mais donc, allez vous inscrire. Si vous n'aviez pas entendu l'épisode dont je parlais d'Encours Montréal, il y a un code promo pour avoir 15% off, Monde de la course 15. Donc, juste, c'est comme le monde de la course, tu enlèves le, puis tu rajoutes le chiffre 15. Et quand vous rentrez ça, lors de l'inscription à la fin, il y a une place pour les codes promo. Vous obtenez 15% de rabais. Je pense que c'est déjà pas si cher. Je pense que c'est autour de 35, 40, 45 peut-être, selon la distance. Il rajoute un 15% off à ça. Dans le fond, ça te paye les taxes. Ben, profitez-en, allez vous inscrire. Que ce soit à ça, j'aimerais bien vous voir, vous croiser là-bas, vous croiser en vous saluant à distance, ou bien n'importe quel autre événement qui vous tente, allez vous inscrire parce que j'ai envie qu'il y ait des courses et je pense que je suis pas le seul, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie. Mais si on fait rien, ben là peut-être que les promoteurs vont être un peu frileux à l'idée d'organiser de quoi. Sur ce, bonne course!